Bonjour à tout le monde. Un très bon sabbat. Le grand Dieu de l'univers, il est réel. Il est bien réel. Nous pouvons bâtir notre vie sur le solide fondement et de ses lois et de sa sagesse. Ça, c'est une fondation qui ne bougera jamais, quelles que soient les circonstances pour nous. Et quels que soient les degrés de difficulté des circonstances actuelles que nous vivons et de celles qui viennent. La vie présente à chacun de nous de nombreux défis régulièrement. Certains souffrent d'infirmités physiques, de maladies. D'autres affrontent des problèmes de famille ou des problèmes financiers, des pertes financières, des mises à pied, de la solitude, des persécutions, la perte d'un être cher, ce genre de choses-là. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, soumis à ce genre de choses. Et ce genre d'épreuve, ce que ça fait, c'est que ça mobilise, ça affecte nos vies, nos pensées, nos émotions. Dans le fond, ça nous affecte dans tout notre être. Toutefois, ce grand Dieu qui nous a appelés dans un but précis, nous montre clairement comment maintenir un équilibre et continuer d'avancer vers le but durant les temps difficiles dont je vous parle. Le titre de mon message aujourd'hui, « Comment traverser nos épreuves avec succès ». Inlassablement, le plan de Dieu s'accomplit. Et son œuvre nous rapproche heureusement d'un monde meilleur qu'il a planifié il y a longtemps. Pour le moment, l'ensemble de la situation mondiale ne fait que s'aggraver de plus en plus. Nous en sommes témoins chaque jour. Bouleversement climatique, multiplication de guerres, conflits de toutes sortes entre nations, mais à l'intérieur des nations aussi. Inflation, affaiblissement de l'ensemble de l'organisation sociale et économique, même dans nos nations israélites. Et j'en passe. C'était annoncé. Comme était aussi annoncé l'héritage fabuleux promis aux appelés de notre époque, tel que mentionné par l'apôtre Pierre. Reportez-vous au premier livre de l'apôtre Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 4, où il est question de cet héritage. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé, Dieu l'a réservé pour chacun de ses fidèles serviteurs. Il vous est réservé dans les cieux. Il va nous venir des cieux, c'est pour ça qu'il le présente sous cette forme-là. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, voilà notre base, en toute chose, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, à être révélé dans les derniers temps, là où nous sommes maintenant. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, et nous le sommes, dans les différentes épreuves qui nous frappent, pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque le Christ paraîtra. Voyez-vous le plan de Dieu dans tout ça? Comment il nous considère et comment il nous met au centre de son plan pour nous amener à la vie éternelle par la foi, par son aide, par son esprit. Et je précise qu'il ne s'agit pas ici d'une foi humaine, d'une foi de surface. Il nous faut la foi du Christ. Ça, c'est important. Et ça nous prend du temps à intégrer cette réalité-là et à l'utiliser. Il faut la foi du Christ Et la foi du Christ, vous le savez, c'est un des fruits qui nous vient par son Saint-Esprit. Et nous recevons son Saint-Esprit plus nous obéissons à ses lois. Alors, il faut donc lui demander son aide pour mieux obéir à ses lois et lui demander davantage de foi. Et lui demander de nous aider à l'utiliser en nous appuyant sur cette foi-là, c'est-à-dire en mettant notre entière confiance en ce grand Dieu tout-puissant, gouverneur de l'univers. Écoutez, Jésus l'a fait. Quand Jésus est venu dans la chair humaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté entièrement sur son Père. Et pour lui, ça a fait toute la différence. Comme ça doit le faire pour nous. Il est notre exemple parfait en toute chose. Et laissez-moi vous dire, nous aurons besoin de cette sorte de foi, de la foi du Christ en nous, pour affronter les choses qui viennent. Dans le sermon d'aujourd'hui, nous verrons quelques clés simples, efficaces, pour traverser nos épreuves avec succès. Premièrement, première clé, toujours avoir en tête la grande perspective de Dieu. Toujours avoir en tête la grande perspective de Dieu. Comment il voit les choses, qui il est et ce qu'il fait. Voyez-vous, plutôt que de rester centré entièrement sur les problèmes et sur les défis qui nous arrivent, il s'agit de garder volontairement, c'est une décision, de garder volontairement nos yeux sur Dieu, sur ce qu'il fait, sur ses promesses. Et en faisant cela, vous verrez, ça fait toute la différence. Et Dieu agit en conséquence envers nous à ce moment-là. Écoutez, Dieu est toujours là. Dieu est toujours sur son trône et Dieu est en contrôle de tout. Le soleil se lève chaque jour. Les planètes sont toujours dans leur course habituelle. Ça a été établi par Dieu, la grande horlogerie céleste. Il est en charge et il est toujours sur son trône. Selon son engagement, Dieu prend soin des siens, lui-même, personnellement, et aussi, bien sûr, à travers son Église, à travers ses ministres qui ont la charge d'aider les appelés. Ce grand Dieu, il est réel. La preuve, ses prophéties annoncées il y a des milliers d'années concernant l'époque du temps de la fin où nous vivons. Ces prophéties-là s'accomplissent ces jours-ci, comme on le verra, sous nos yeux de plus en plus. Et c'est là une garantie et une preuve irréfutable que ce grand Dieu existe et qu'il est en contrôle de tout. S'il a été capable d'annoncer il y a des milliers d'années ce qui nous arrive aujourd'hui, comprenez-vous qu'il est le Tout-Puissant et qu'il peut aussi accomplir les promesses qu'il vous a faites, de même qu'à moi, personnellement, individuellement, pour que nous arrivions au but et que nous traversions les épreuves qui nous arrivent. En parlant de ces prophéties-là, on le voit en Europe actuellement de façon très spéciale. Et à ce titre-là, je vais vous lire une partie d'un article qui est paru il y a à peine quelques jours. Le 11 janvier 2026. Article publié par l'agence France Presse, 11 janvier 2026. On y lit ceci. On y lit que le commissaire européen à la défense, face à la menace russe sans cesse grandissante et face à la non-fiabilité des États-Unis, ce commissaire européen à la défense souhaite maintenant clairement et rapidement la formation d'une armée européenne commune. Bon, ça c'est une chose, on le sait, par la prophétie aussi. Mais il est allé plus loin. Il est allé beaucoup plus loin. Et je cite ses paroles. Le commissaire européen à la défense a également défendu l'idée de créer un conseil de sécurité européen. Et vous allez voir ce que ça veut dire tantôt. Il a également défendu l'idée de créer un Conseil de sécurité européen regroupant les grandes puissances du continent. pour faciliter et accélérer la prise de décision en Europe en matière de défense. Puis, il est allé plus loin et là, sans le réaliser, ce commissaire à la défense a confirmé l'accomplissement qui est en cours de la prophétie de Daniel chapitre 2. Vous pourrez le lire vous-même plus tard. Qu'est-ce que ça dit la prophétie de Daniel chapitre 2? Ça décrit les 10 orteils des pieds de la statue du rêve de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire les 10 nations européennes qui vont surgir, s'unir et agir puissamment ensemble avant le retour du Christ. Après qu'elles auront procédé, le Christ va revenir et les mettre en pièces. Mais on voit que cet élément-là est important. Maintenant, je continue la citation et je vous amène au point qui m'a frappé et qui a retenu mon attention. Le conseiller européen dit ceci, c'est-à-dire le commissaire européen dit ceci, « Le Conseil de sécurité européen pourrait être composé de membres permanents clés, donc des membres plus importants que d'autres, un certain nombre de membres plus importants, mais des membres clés de ce Conseil européen. » Et d'autres membres tournants, a-t-il indiqué. Puis il a continué en disant, il y aurait 10 à 12 membres au total. Il y aurait 10 à 12 membres au total qui auraient pour tâche de discuter des sujets essentiels en matière de défense, donc de prendre des décisions et de passer à l'action. C'est fantastique quand on le voit, parce que là, on assiste sous nos yeux, à la réalisation d'une annonce faite par Dieu il y a des milliers d'années. C'est nous qui sommes les témoins vivants de ce qui est en train d'arriver. Et c'est en même temps une confirmation de la puissance du grand Dieu que nous servons. Tout cela nous montre la grande perspective de Dieu, sa fidélité, sa puissance, à laquelle nous devons nous attacher pour traverser nos temps difficiles avec assurance, en sachant que nous sommes soutenus par le rocher des siècles. La grande perspective de Dieu comprend aussi pour nous son encourageante promesse que l'on voit dans le livre aux Hébreux, chapitre 13. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux, chapitre 13. Chapitre 13. Et lisons la deuxième partie du verset 5. Hébreux 13, verset 5, deuxième partie. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Si nous gardons cette promesse à l'esprit, il en découle un réconfort extraordinaire de la part du Dieu Tout-Puissant qui accomplit ce qu'il dit d'avance, même en ce qui nous concerne. Quand il dit « Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je vais vous aider à passer à travers. » Et regardez, on le voit au verset 6. « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? » Rappelons-nous toutefois que la promesse principale de Dieu pour nous, ce n'est pas de vivre éternellement dans la chair comme c'est le cas actuellement. Absolument pas. C'est de ressusciter un jour à la vie éternelle. C'est de naître dans la famille de Dieu en tant qu'être totalement spirituel, libéré entièrement de toute limitation et de toute difficulté, de toute maladie, de toute limitation, pour ainsi dire, physique. Bien sûr, d'ici là, nous aurons encore des difficultés, des pertes, des persécutions. Comme en ont eu d'ailleurs tous les héros de la foi qui sont mentionnés dans le livre aux Hébreux chapitre 11, toute la grande liste à laquelle on réfère régulièrement. Eux aussi ont connu le même genre de choses. Et comme on voit dans ce qui est décrit, ils ont réussi. Ils ont passé à travers, mais pas par leur force, toujours par la même possibilité, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Ils ont entièrement compté sur le Dieu Tout-Puissant. C'est de cette façon qu'ils ont passé à travers. Et ils ont regardé les choses à partir du point de vue de Dieu. Ils ont vu la grande perspective que Dieu établit sur sa création. Regardez ce que dit Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il vient de parler de les témoins de la foi dans le chapitre 11, on est environnés par ces gens-là, on a leur histoire pour être encouragés, pour savoir quoi faire. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, qui nous est ouverte. Donc, il dit ici, travaillez à vaincre vos fautes, c'est votre part à faire, et allez de l'avant et faire ce qu'il faut. Priez Dieu chaque jour, ne jamais passer une journée sans prier Dieu. Étudiez sa parole avec zèle chaque jour aussi. Jeûnez régulièrement et s'appliquez à vivre selon ses lois. C'est les deux critères qu'il nous mentionne ici. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte vers la vie éternelle. Et sur qui on base notre espoir pour réussir, pour avoir le succès? Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi du Christ dont je vous parlais tantôt, et qui l'amène à la perfection. Le Christ est notre exemple en toutes choses et il est la source de notre foi. C'est sa foi que nous devons avoir. Et regardez dans son cas ce qui s'est produit. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors ça, c'est notre exemple parfait. Après, il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne, et c'était un être entièrement humain comme vous et moi à ce moment-là, il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Regardez cet exemple et comptez sur lui et lui demander sa force pour que nous combattions par sa force afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Sinon, il y a sujet à découragement et à se lasser et à diminuer et même à vouloir abandonner. Mais il dit, c'est possible de ne pas le faire en comptant sur le Christ qui, lui, a réussi et qui peut réussir à travers nous à nous donner la victoire, quelles que soient nos situations. Voyons un peu la grandeur de la puissante action du Dieu réel que nous servons et sur qui nous devons compter, comme Jésus-Christ lui-même l'a d'ailleurs fait. Reportez-vous à Psaume chapitre 33 et voyons les versets 8 et 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe, absolument. Soit du côté malédiction ou soit du côté bénédiction. Dans les deux cas, parce qu'il est le Tout-Puissant. Verset 11 maintenant. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Mais oui, il est le Tout-Puissant, il n'y a rien qui va l'empêcher de réaliser ce qu'il a dit. Et les projets de son cœur de génération en génération. Et actuellement, la phase des projets de son cœur, c'est de donner à ses appelés au temps de la fin la capacité de se rendre au royaume et la capacité de traverser les étapes particulières dans lesquelles nous nous trouvons et qui s'en viennent. C'est ce qu'il a à l'esprit le plus important pour le moment. Et regardez maintenant le verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations pour accomplir les siennes. Il anéantit les projets des peuples. Et on n'a qu'à regarder l'histoire. Il l'a fait dans le passé. Il a anéanti de grands projets humains, impressionnants, de tentative de domination du monde. Qu'est-ce qu'il a fait avec Nebuchadnezzar? Qu'est-ce qu'il a fait avec Hitler et plusieurs autres au cours de l'histoire? À un moment donné, il a effacé leur domination. Verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Il est notre Dieu. Nous sommes heureux, nous sommes bénis. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage et à qui il promet son aide absolument nécessaire et absolument certaine. Lisons maintenant les versets 13 à 17. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Il sait exactement tout ce qui se passe sur la face de la terre. Rien n'arrive qui ne le surprenne. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toute leur action. Et après, il précise quelque chose. Il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui a sauvé Hitler, ni Nebuchadnezzar. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros humains. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. La plus grande armée, les meilleures artilleries ne peuvent pas assurer la défense absolue et la réussite sur le plan humain. Et après, il donne la réponse à ce qu'on cherche. Le verset 18, la base de notre assurance. Verset 18, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Il sait tout ce qui se passe dans l'univers, mais son œil est particulièrement sur ceux qui le craignent, sur vous et sur moi si nous nous appliquons à mettre ses voies en pratique, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Quand nous avons une révérence profonde envers le Maître de l'univers, envers Dieu le Père, envers son Fils, notre grand frère, notre Sauveur, à ce moment-là, il réagit en notre faveur. Si nos cœurs sont avec lui, si nos yeux sont sans cesse tournés vers lui, il promet de prendre soin de nous. Il promet de prendre soin de nous. C'est un engagement. Regardez le verset 19, tout de suite après. « Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre et de les faire vivre au milieu de la famine. » Formidable. Verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. C'est pour ça qu'on espère en lui et que c'est sur lui qu'on base notre espoir. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Et il accomplit toujours ce qu'il annonce sur les nations du monde et sur les individus qu'il appelle à ce moment-ci, comme il fera dans le monde de demain d'ailleurs. Quand d'autres épreuves vont venir, gardons les yeux sur Dieu, sur sa grande perspective. Et je précise en disant ça, gardons les yeux sur Dieu, sa grande perspective, sur son plan, et moins sur nous-mêmes. Et moins sur nous-mêmes. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Moins sur nos défis ou sur les problèmes qu'on a à rencontrer. Bien sûr, on doit faire face aux problèmes, en être conscient et tout ça, mais ça ne doit pas occuper tout l'espace de nos pensées, de nos émotions, et on ne doit pas se concentrer uniquement là-dessus. Ce qui m'amène à la deuxième clé pour affronter avec succès nos épreuves. Deuxième clé pour affronter avec succès nos épreuves. Ne pas garder notre pensée, être centré d'abord et principalement sur nous-mêmes. Je répète parce que c'est important. Ne pas garder notre pensée, être centré d'abord et principalement sur nous-mêmes. La tendance humaine, spontanée, naturelle, est de tout centrer sur nous-mêmes. Je dirais que c'est un réflexe normal d'autoprotection. C'est un réflexe normal d'autoprotection. Avoir les yeux sur nous-mêmes, sur les problèmes qui arrivent, sur nos limitations, sur nos peurs qui sont associées à ça, et parfois trop jouer là-dedans, et à ce moment-là, ça nous enfonce, plutôt que de regarder vers la solution. En faisant ça, on entretient en nous l'inquiétude, et on la fait augmenter face à ce qui nous arrive, à ce qui peut nous arriver ou pourrait nous arriver. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est qu'il faut développer l'habitude de d'abord compter sur Dieu. Je reviens encore là-dessus. De d'abord compter sur Dieu en premier, principalement. Lui demander de nous aider à voir les choses dans sa grande perspective. De nous rappeler les miracles qu'il a fait dans le passé, et pour nous, et pour d'autres. Et qu'à partir de là, on soit assuré que lui, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, il va continuer à faire la même chose pour nous qu'il a fait jusqu'à maintenant. Rappelez-vous, au moment de notre baptême, on a signé un contrat avec le Créateur. Qu'est-ce qu'on lui a dit dans le fond, si je résume? On a dit à Dieu, « Maintenant, ma vie t'appartient. » Comme M. Armstrong nous a expliqué, « Ma vie t'appartient. » Et ça sous-tend ceci, « Ma vie t'appartient, quelles que soient les circonstances à traverser pour arriver au but de la vie éternelle. Ma vie t'appartient, quelles que soient les circonstances. » Même si on doit perdre beaucoup d'ici là, et ce sont des choses qui peuvent et qui vont arriver. C'est ce que l'apôtre Paul a fait, lui, avec succès. Lui qui a subi de très nombreuses, constantes épreuves et tribulations régulièrement dans sa vie après que Dieu l'a appelé, ça a été épouvantable. Sa vie, ça a été un amalgame de misère, de contradictions, d'épreuves, de souffrances, de tribulations, d'épreuves, y compris l'épreuve d'être harcelé par les faux prédicateurs qui ne le laissaient pas tranquille jamais. Regardez Philippiens, le livre aux Philippiens, chapitre 1. On va voir par quoi Paul est passé et comment il est passé à travers ces choses-là. Philippiens 1, versets 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent le Christ par envie et par esprit de dispute. Ça, c'est ceux qui le contredisaient. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci, ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes, agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Donc, ça le soutenait, dans le fond, dans son annonce de l'Évangile. Verset 17. Tandis que ceux-là, les premiers, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Parce qu'il était enchaîné à ce moment-là. C'est incroyable comment il réussissait à avoir la grande perspective de Dieu malgré cette opposition-là. Continuons maintenant. Il dit après, qu'importe. Autrement dit, si je dois traverser ça, je vais le traverser avec l'aide de Dieu. De toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, parce que Dieu va accomplir son plan. Il va nous amener à terme, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, avec son aide et avec la prière des frères et sœurs. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, même si je souffre physiquement, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et ici, il ajoute après, « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Alors ici, il lance une pensée, une idée, il dit, si je dois m'endormir du sommeil de la mort, d'une façon, ça serait plus facile. Je n'aurais plus à affronter toutes ces choses-là. Je serais avec Jésus-Christ la seconde d'après et ça serait la fin de mes épreuves. Mais ce n'est peut-être pas ce qui est de mieux et pour moi et pour l'Église. On le voit réfléchir dans ce sens-là après. Et du verset 22 au verset 24, il dit ceci. « Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur parce que je serai délivré, bien sûr. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Dans le fond, il disait à Dieu, ma vie t'appartient. Quand j'ai été baptisé, j'ai signé le contrat comme de quoi tu pouvais faire ce que tu voulais de ma vie parce que je t'appartiens. Et je veux rester centré sur Dieu, sur son œuvre, sur ma préparation et sur la préparation des frères et sœurs. Regardez bien, si nous pensons de cette façon-là, comme l'apôtre Paul, si nous acceptons les circonstances qui nous arrivent, nous ne nous apitoyons pas sur nous-mêmes. Nous cessons de nous apitoyer sur nous-mêmes et ça change beaucoup de choses. Quand la maladie persiste, quand nous perdons un être cher, ce qui est arrivé et ce qui va arriver, quand une tragédie frappe, immense tragédie ou plus petite, quand quelqu'un perd sa maison qui est détruite par les flammes ou inondée, comme on voit si régulièrement du côté de la France et même dans nos régions avec toutes les perturbations météorologiques qui se passent actuellement. Quand tout ça se produit, si on est conscient que notre vie appartient à Dieu et qu'on peut avoir sa force pour passer à travers, ça change tout parce qu'on commence à voir sa grande perspective et à voir davantage qu'on peut compter sur lui en insistant et en disant à Dieu, écoute, je ne suis pas parfait, mais regarde, je mets tout mon cœur à vivre selon tes lois. Et je sais que parce que je fais ça, tu vas m'aider à passer à travers. Notre vie appartient à Dieu. Notre vie, elle appartient à Dieu. Et par sa force, il va en prendre soin pour que nous passions à travers. Je ne m'y reporterai pas, mais vous irez lire 1 Corinthiens 10, verset 13. Très encourageant. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il est écrit ceci. Aucune tentation ou aucune tentation de la part de Satan pour nous amener à pécher ou aucune épreuve ne vous est survenue qui ait été humaine. Donc, c'est dans le domaine de notre humanité. Et Dieu qui est fidèle, regardez la promesse après, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est une promesse. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et là, ça peut varier d'un individu à l'autre. J'en parlais avec quelqu'un au début de l'assemblée. Ce que vous avez dû supporter, moi, je n'aurais peut-être pas pu le supporter. Il ne me l'a pas donné à moi, cette épreuve-là ou ce test-là. Mais à la personne qui l'a eu, il a donné la possibilité de passer à travers, comme c'est le cas de plusieurs dans l'Église qui ont passé des épreuves épouvantables que moi, je n'aurais pas pu traverser. Mais eux ont pu parce que Dieu leur a donné la force et qu'ils savaient qu'avec sa force, ils pourraient y arriver. Alors que dans mon cas, c'est différent. Et c'est pareil pour chacun de nous. Alors, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces personnelles dans votre cas. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça fait partie de la promesse. Troisième grande clé pour traverser nos épreuves avec succès. Être conscient que Satan est lui aussi un être réel et puissant. Être conscient dans le même sens de son travail, de ses attaques régulières, et être conscient du fait qu'il nous faut nous protéger et que Dieu nous donne les moyens là aussi pour y arriver. Ce n'est pas toujours le cas, mais Satan peut être impliqué, avec la permission de Dieu, dans ce qui nous arrive comme épreuve ou comme tentation nous induisant vers le péché. D'ailleurs, l'apôtre Paul donne l'exemple d'un homme de l'Église qui a dû être exclu de l'Église parce qu'il avait des relations sexuelles avec sa belle-mère, c'est-à-dire avec la deuxième épouse de son père. Après, quand l'homme s'est repenti, il fallait que l'Église le réintègre et que les membres l'acceptent pour éviter qu'il ne se décourage et qu'il n'abandonne si ça n'avait pas été le cas. Reportez-vous à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2. Et lisons les versets 6 et 7. Il suffit pour cet homme, l'homme dont je vous parle, du châtiment qui lui a été infligé, d'être mis à l'extérieur de l'Église pour se repentir, du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Et après, justement, Paul précise, verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Voyez-vous, si l'homme, après s'être repenti, n'avait pas reçu l'accueil chaleureux et le pardon aussi de l'Église et des membres de l'Église, il aurait pu abandonner et subir Satan, de profiter de lui au maximum pour le décourager totalement. Satan connaît bien chacun de nous, chacun de nos points faibles d'ailleurs, et il peut nous fournir facilement les occasions de péché selon nos points faibles, selon nos faiblesses. Si votre point faible, c'est la sexualité, il vous offrira des occasions en or. Si votre point faible, c'est la drogue ou l'alcool, il vous fournira des situations propices, vous invitant à goûter ces choses-là encore et à retomber dans les mêmes problèmes. Satan, c'est un être spirituel réel, aussi réel que Dieu, et il est puissant pour causer des problèmes et pour nous amener à pécher et à nous décourager. C'est son but. Heureusement, Dieu montre clairement comment résister et comment vaincre. On le voit entre autres dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Et lisons le verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute-puissante. On revient encore là. On revient toujours à ce point de départ. Le rocher des siècles, la source de la puissance par laquelle on peut réussir. Et c'est le seul moyen pour nous de réussir. Bien sûr, il faut vouloir, il faut décider de vouloir, et il faut décider de faire notre part. Mais notre base est ici. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. C'est notre source de résistance et c'est notre source de victoire. Et en faisant notre part, comme on voit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parfois, on a l'impression qu'on a à lutter ou à avoir comme opposition un être humain ou des êtres humains qui ne sont pas d'accord avec nous ou qui nous créent des problèmes. Mais derrière tout ça, c'est Satan et ses démons qui essaient de nous atteindre, c'est ça. Car nous n'avons pas à lutter au point de départ contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont dans l'atmosphère de la terre. Et au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et nous sommes dans ce mauvais jour, et tenir ferme pour réussir après avoir tout surmonté, alors que nous avons déjà surmonté beaucoup de choses et que nous approchons enfin, heureusement, de la ligne d'arrivée. Nous sommes dans ces mauvais derniers jours précédant la grande détresse. Et c'est pour ça que le monde autour de nous devient évidemment de plus en plus insensé, de plus en plus littéralement fou. On aurait, écoutez, si vous êtes comme moi, là, on n'aurait jamais imaginé que les choses se seraient détériorées à ce point-là. À chaque jour, il nous arrive des choses qu'on n'aurait pas pu penser. Et c'est pire d'une journée à l'autre. Il faudra donc de plus en plus savoir, et pas seulement savoir, mais être profondément convaincu qu'il y a un Dieu réel et que nous pouvons entièrement compter sur lui. Et c'est pour ça qu'on voit après, du verset 14 au verset 17 d'Éphésiens 6, les armes que Dieu nous montre à utiliser pour développer la capacité de résister. Puis regardez ce qu'il dit au verset 18. Faites en tout temps, donc en tout temps, chaque jour, régulièrement, par l'Esprit, demandant le Saint-Esprit de Dieu, Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Restez en contact avec Dieu au cours des journées régulièrement, en le suppliant, en le remerciant, en l'adorant, en lui demandant son aide, en lui demandant de vous guider dans les situations qui arrivent ou de vous aider à ne pas réagir trop vite. Je me rappelle un sermon que M. Ames avait donné quand il nous arrive des situations qui nous dérangent, qui arrivent trop vite. M. Ames disait, j'ai appris à compter jusqu'à 10 avant de réagir. Et il dit, j'ai encore besoin de le faire régulièrement pour ne pas me tromper ou rendre une situation encore plus compliquée. Formidable. Alors, on revient au verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Quatrième clé pour traverser nos épreuves avec succès. Faire entièrement confiance à Dieu en toutes circonstances. Faire entièrement confiance à Dieu en toutes circonstances. Bien sûr, si nous nous efforçons régulièrement d'abord et au mieux de vivre selon ses enseignements, c'est là qu'il nous répond, même si on n'est pas parfait, c'est là qu'il nous répond et qu'il nous aide. Et on a de puissants exemples de ça, de gens qui l'ont fait et qui ont réussi. Monsieur Dibord appartient. C'est un exemple extraordinaire de ce côté-là. Il a tenu le coup, il a compté sur Dieu à travers des tempêtes épouvantables, des épreuves épouvantables. Il a perdu des membres de sa famille. Il y a eu beaucoup d'opposition. Monsieur appartient, Monsieur Meredith. Monsieur Meredith aussi a connu des heures épouvantables. Il a perdu ses deux épouses. Il a été envoyé à l'extérieur injustement à un moment donné des années parce qu'il y avait des gens auprès de Monsieur Armstrong qui jouaient des jeux de coulisses pour prendre le pouvoir. Et lui en a payé le prix. Mais il est resté fidèle. Il a gardé sa confiance à Dieu et Dieu l'a aidé à passer à travers et regardez tout ce qu'il a accompli après. Même après que l'Église universelle de Dieu ait implosé, il a pu reprendre son bâton d'évangéliste et continuer l'Église pour que nous puissions exister aujourd'hui. Ça a été le cas de M. Armstrong, exactement. Ça a été le cas du roi David aussi et de bien d'autres. Voyez-vous, les fidèles membres de l'Église l'ont aussi fait à travers l'histoire. On a vu les héros de la foi tantôt. Tout comme les gens d'aujourd'hui le font. La plupart des gens dans l'Église le font. Ils font confiance à Dieu et ils persistent. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul en parle. Allez à Hébreux, chapitre 10, verset 32. Ça parle de nous en même temps, de tous ceux qui ont été appelés. Comment nous avons commencé dans la vérité? Verset 32, Hébreux 10. Souvenez-vous de ces premiers jours, quand on a été appelés, ou après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat, et ça a été difficile pour chacun des appelés. Un grand combat au milieu des souffrances. Il y avait des souffrances à ce moment-là. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. On était content de retrouver autour de nous, dans l'Église, des gens qui pensaient la même chose, qui avaient découvert la splendeur de la même vérité, qui attendait le même retour de Christ. Et verset 34, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Et à ce moment-là, au début de l'Église, certains se sont vus confisquer toutes leurs possessions. Et il dit ici, « Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours, qui sont à votre disposition. » Et ça peut encore se produire. C'est pour ça qu'il faut voir les choses dans la grande perspective de Dieu. Continuons. Et après, il dit tout de suite, « N'abandonnez donc pas votre assurance. Abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance à travers ces épreuves-là. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Et particulièrement pour nous qui sommes rendus au temps de la fin, verset 37, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Job aussi est un fidèle serviteur de Dieu. Il n'était pas parfait, mais c'était un fidèle serviteur de Dieu. Et malgré les épreuves, il a gardé confiance totale envers son Dieu. Tout au long de la grande épreuve particulière qu'il a dû subir et qui était permise par Dieu. Il a vu, bien sûr, ce qu'il devait changer, mais il a surtout découvert la grande perspective de Dieu, celle dont je vous parle et qui nous permet d'aller plus loin. Et après ça, Dieu l'a béni au double de tout ce qu'il avait avant. Toutefois, durant sa difficile épreuve, et je pourrais dire durant sa grande détresse, pour ainsi dire, alors qu'il était abattu, Job a supplié Dieu de l'aider, comme nous aussi, nous devons le faire, et qu'il nous arrive de devoir le faire dans différentes circonstances. Voyez le psaume 102 à ce sujet-là. Allons à psaume 102. Ça va sûrement vous rappeler des choses. Ça m'en a rappelé quand j'ai trouvé ce passage-là cette semaine. Parce qu'on passe tous par des périodes semblables à ça, semblables à ce que Job a subi, même si ce n'est pas exactement les mêmes épreuves. Ça décrit très bien. Psaume 102, versets 1 à 3. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu. C'est arrivé à Job, ça nous arrive. Lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel, c'est vers lui qu'on doit se tourner et lui expliquer en détail ce par quoi nous passons, comment nous nous sentons, les besoins que nous avons et l'impossibilité que nous avons nous-mêmes de régler nos problèmes. Répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et mon cri qu'il parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Hâte-toi de m'exaucer. Vous savez, lorsque Job a perdu tous ses enfants, et c'est ce qui lui est arrivé, c'est pas peu de chose, là. Job a perdu tous ses enfants. Il ne comprenait pas pourquoi. Lorsqu'il a perdu tous ses avoirs et même sa santé, il ne comprenait pas pourquoi. Pourtant, comme j'ai mentionné, Job était juste aux yeux de Dieu, même s'il n'était pas parfait. Il s'appliquait à vivre selon les lois de Dieu au mieux qu'il pouvait. Alors, ce que Job a fait, c'est qu'il a demandé à Dieu pourquoi. Pas pour accuser Dieu, mais pour comprendre, ce qui est une bonne attitude et tout à fait normal comme réaction. Mais rappelez-vous la réponse de Dieu. Pour les raisons que Dieu seul connaît, il n'a pas répondu aux questions ou pourquoi de Job. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a plutôt montré sa grandeur, sa majesté, comme pour l'amener à voir les choses du point de vue divin, d'un point de vue beaucoup plus élevé que le point de vue humain, en laissant sous-entendre à Job: tu n'as pas à tout comprendre pour l'instant. Compte sur moi. C'est mieux ainsi. J'ai mes raisons, j'ai mes objectifs d'avoir permis que cela t'arrive. Fais-moi confiance en toute chose, car toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment et me font confiance. Ce que je fais, je suis en train d'accomplir quelque chose de beaucoup plus grand en toi que tu peux imaginer et saisir. Dans le fond, c'est la réponse que Dieu a donnée à Job. Et quand Job a dit « il faut que je regarde dans ce sens-là et que je cesse de regarder simplement mes épreuves et mes émotions par rapport à ça », ça a changé toute chose. D'ailleurs, il y a un verset du Nouveau Testament qui résume particulièrement bien ce que nous devons faire pour traverser toutes nos épreuves avec succès. En laissant à Dieu le soin tel que promis, de nous donner par sa force d'atteindre le but. Reportez-vous à ce verset-là, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 6. C'est un passage que vous connaissez très bien. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ça fait partie de la réaction qu'on doit avoir vis-à-vis de toutes les épreuves qui se présentent chaque jour. Chaque jour, je pourrais dire. Matthieu 6, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Ça, c'est une tendance naturelle automatique qu'on a. Toujours s'inquiéter du lendemain, du surlendemain, de l'an prochain, de ce qui va venir au printemps et ainsi de suite. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Et ça nous demande des décisions difficiles et difficiles à appliquer aussi. D'arrêter de regarder ce qui s'en vient. On sait qu'il y a des choses terribles qui s'en viennent, des choses difficiles, mais en même temps, on a les promesses de Dieu. Mais humainement, on est porté à regarder les choses difficiles. Puis si on les regarde d'avance trop longtemps, qu'on les garde trop longtemps, on diminue nos capacités de résistance et on se décourage. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain, sous la directive de Dieu, aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Et Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, fera demain ce qu'il a à faire. Maintenant, arrivons au verset 33. Sur quoi, à ce moment-là, concentrer nos priorités à chaque journée pour que nos problèmes, nos difficultés, nos défis, nos épreuves n'occupent pas la première place de nos émotions et de nos pensées, même si on doit s'en occuper, mais à un certain niveau. Regardez ce qu'on doit faire. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, mettez en priorité le fait de vous appliquer à vivre selon mes lois, et le reste, je m'en occuperai une journée à la fois. Travaillez aujourd'hui dans ce que vous avez à faire. Parlez-moi de vos épreuves, des défis que vous rencontrez. Demandez-moi mon aide, je vous la donnerai. Je changerai la situation ou je vous donnerai la force de passer à travers la situation. Mais faites-le. Mettez comme priorité chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est une garantie que Dieu nous donne. Et ça, ça comprend toute l'aide nécessaire pour traverser nos épreuves avec succès.